Chapitre 36. 29 novembre 2010. On vit tous à peu près les mêmes choses. Bien sûr, il y a les imprévus, les coups du destin, la chance et la malchance, l'aisance et la pauvreté, les conflits, les religions. Mais en résumé, on est tous à peu près voués à vivre les mêmes choses. Nouer des liens avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos voisins, apprendre des livres lorsqu'on est enfant, les images, la poésie, l'histoire-géographie, les tables de multiplication, la conjugaison des verbes être et avoir, nager, pédaler, rencontrer, choisir, travailler, voyager, essayer de construire sa vie avec quelqu'un, faire des enfants, s'occuper de ses anciens si un jour ils deviennent dépendants, tenter de trouver un certain équilibre, ne pas grandir ne pensant qu'à sa gueule, partager et écouter du mieux qu'on peut, aider les uns et les autres, prendre du plaisir, se traiter de con parfois, de naïf, souvent, se sourire et s'encourager tout de même, danser surtout. J'adore la chanson d'Alain Souchon, Foule sentimentale. Elle résume tout. C'est drôle comme Souchon revient en boucle dans ma vie en ce moment. C'est ma référence du présent. Bref, on est tous voués à vivre à peu près les mêmes choses. C'est ce qui fait l'humanité. On a tous plus ou moins les mêmes projets, les mêmes rêves. Mais il y a une phrase que jamais je n'aurais pensé entendre de toute mon existence. Agnès, comme tu es la seule descendante de Soutkovski, l'équipe médicale de Caluire souhaiterait avoir ton accord avant de le débrancher. J'ai accepté, mais à deux conditions. Le voir et que Paul m'accompagne. Un aller-retour en voiture dans la journée. C'est chouette de voyager avec un flic. Quand nous sommes coincés dans des embouteillages, il met le gyrophare et on peut se garer partout. Je découvre un vieil homme mort, mais dont la cage thoracique se soulève encore. Il n'a plus d'activité cérébrale depuis 48 heures. Je ne reconnais pas l'homme de la photo que Louis m'a montrée. Le cliché pris par Mathilde Pinson, le passant qui tire un caddie dans la rue. Je détaille son profil, la forme de ses yeux fermés. Aucune ressemblance avec les gens de ma famille. Vous êtes sûr que c'est lui ? Le médecin et l'infirmière me regardent d'un air suspicieux. Je ne l'ai pas touché. Je refuse de m'asseoir près de lui. Cet homme est un sombre étranger qui a terrorisé sa femme et sa fille, tué Mathilde Pinson et Victor Socha, frappé à mort toutes ses victimes. Un drap recouvre son corps relié à des machines invraisemblables. Je suis très mal à l'aise. J'observe sa peau, le bleu laissé par la perfusion. Il est d'un jaune cireux. C'est à cause de la prise de médicaments. Le foie n'a pas supporté. Il s'est empoisonné. Les organes vitaux ont tous été touchés. Et les organes vitaux des femmes qu'il a hantées sont en poussière. C'est un des pires moments de ma vie. Ça me rappelle l'exécution de Ceausescu. Le deuxième mort que j'ai vu, mais celui-là à la télévision. On n'en tire rien, ni joie ni gloire. Tout au plus un soulagement, une vengeance populaire. Mais laquelle dans le cas présent? Marie et Blanche sont en terre. Cette mort a trop de retard. On attend mon assentiment pour la signifier, l'officialiser. Moi qui ne suis rien pour lui, lui qui n'est rien pour moi. Je n'écoute pas le médecin qui s'adresse à moi comme si je connaissais le spectre inerte allongé sur ce lit. J'entends juste qu'il est en état de mort cérébrale, que c'est fini. Il n'entend plus, ne ressent plus, ne respire plus seul. On finit par me demander si j'ai des questions. Aucune. J'ai envie de redemander si c'est bien lui, mais je n'ose pas. Paul répond pour moi. Madame Septembre ignorait il y a encore quelques jours que cet individu avait une filiation avec elle. J'ignore pourquoi, mais le médecin ne semble pas nous croire. Nous quittons la chambre, on me demande de signer un papier. Ce sera notre seul lien, celui de sa mort. Un papier sur lequel nos noms sont réunis. Je n'ai pas le temps de sortir du service qu'on me remet un sac contenant ses effets personnels. J'ai le sentiment d'être une usurpatrice dans un très mauvais film. Nous remontons dans la voiture.
Ça va ? Me demande Paul.
Ça va. Tu crois que ils l'ont débranché ?
Oui. Je voulais te dire, Lyuba Rozov, la mère de Yevgeny Soutkovski, elle était trapéziste. Elle est morte quand son fils avait 4 ans et demi. Il a grandi avec son père, une sombre brute. On l'a retrouvé allongé sur la tombe de sa mère.
Il faut faire en sorte qu'il soit enterré avec elle. Je paierai les frais. Je n'en suis plus à un enterrement près. J'ai gagné tellement d'argent avec le cinéma que maintenant je paie des enterrements. C'est pas des films que j'aurais dû faire. C'est pompes funèbres. Tu peux organiser ça pour moi, Paul ?
Oui, chef. Mais il y a autre chose.
Quoi encore ? Il y a toujours autre chose.
Soutkovski a fait beaucoup de recherches sur toi ces dernières semaines. Il effaçait les historiques systématiquement, mais nos gars de l'informatique sont rentrés dans le ventre de son ordinateur.
Regarde dans le sac. Paul désigne celui qu'on m'a remis à l'hôpital et que j'ai jeté sur le siège arrière de la voiture. Nous sommes toujours sur le parking, devant l'hôpital. Tu penses qu'il voulait me tuer ?
Non, je pense que c'est autre chose.
Il n'ajoute rien de plus. J'enfile mes gants avant de récupérer le sac. Je ne veux pas toucher ce qui a appartenu à cet homme à main nue. C'est aussi une manière de garder mes distances. À l'intérieur, je découvre un pantalon gris et un pull noir enfermé dans un plastique. Ça pue le feu de bois. Je reconnais mon écharpe rouge dans un autre emballage. Je reste sans voix, le temps de comprendre qu'il l'a sans doute dérobée le jour où il est entré chez Colette. Je l'ai cherché partout, pensant l'avoir oublié quelque part. Paul murmure qu'il l'a porté sur lui quand on l'a retrouvé, inanimé, dans le cimetière. Pourquoi portait-il mon écharpe ? Que savait-il de moi ? Avait-il deviné pour la grossesse de Blanche ? Je commence à sentir la chaleur malsaine me saisir, celle qui me foudroie, qui m'étouffe. Enfin, je découvre un portefeuille vieux comme le monde, élimé, aux coutures presque arrachées. C'est Colette qui serait contente de l'avoir entre les mains, penchée sur sa table de travail. Elle adorait surpiquer la maroquinerie. Elle disait qu'elle avait le sentiment d'être une orfèvre. J'ai de plus en plus chaud. Je me sens de plus en plus mal. J'entends Paul me dire, je leur ai demandé de jeter ses chaussures et son manteau qui était crade. Inventaire à la Prévert. Un pantalon, un pull, une écharpe volée, un portefeuille. Ma voix est cotonneuse. C'est tout ce qu'il possédait ?
Il a piqué une voiture à la gare de Valence. On l'a retrouvée tout près d'ici. Il y avait des fringues à l'intérieur, un coffret avec des billets de banque, des journaux, des haltères, des merdes pas possibles, et surtout un ordinateur dans le coffre. Tout est parti au labo.
Et ma boîte rose ? Vous l'avez retrouvée ?
Non.
Et mes photos ?
Rien. Ni boîte, ni photo.
J'ouvre le portefeuille en essayant de contrôler mes tremblements. Il ne contient rien d'autre que le portrait d'une femme en noir et blanc. Le tirage est intact, on en a pris soin. Il doit dater des années 20 ou 30. Une femme brune sourit à l'objectif. Le temps que mon cerveau traite l'information, analyse, comprenne, réalise, suffoque, rejette, le temps que je détaille la chevelure, les yeux, le nez, les pommettes, la bouche, le sourire, la robe de gala, le corps, les hanches, les jambes nues couvertes d'un collant à paillettes, le temps de... Je me sens partir. Mais je refuse de perdre connaissance, je me l'interdis. Je ferme les yeux et enfonce mon crâne dans l'appui-tête. Je voudrais murmurer à Paul, « Dis-moi que je rêve. » Mais je suis incapable de parler, de prononcer le moindre mot. J'entends mon souffle, j'entends la sirène d'un camion de pompiers ou d'une ambulance passer au loin, j'entends sa voix, « Respire. » Je respire, j'ouvre les yeux, regarde à nouveau le portrait, me tourne vers Paul en articulant « C'est dingue !» et lui de me répondre « Complètement dingue !» Il est 20h. Je suis seule dans mon appartement. Paul m'a déposé en fin d'après-midi. Cornelia m'a laissé une soupe dans le frigidaire. Anna dîne avec son père pour régler leurs différends.
Je viens de faire des recherches sur Lyuba Rozov. Une heure pour trouver deux maigres lignes la concernant sur un site spécialisé dans les cirques d'autrefois. Trapéziste originaire de Russie, le Circus Elliott, France, l'engage en 1927. Première femme à exécuter un double saut périlleux. Ces quelques mots me bouleversent. Elle existe, a existé. Elle faisait des doubles sauts périlleux. Aucune photographie. Je me brûle les yeux sur notre ressemblance depuis des heures. J'ai l'impression de me voir dans une vie antérieure, ou qu'on m'a grimé comme on le fait pour les films historiques. J'ai hâte de montrer ce portrait à Anna. C'est étrange de découvrir le visage d'une ancêtre qui est le sien. Ça me rappelle les histoires de réincarnation qu'on se racontait avec Lies, Adèle et Hervé pour se faire peur. J'ai le visage d'une femme russe et je l'ignorais. On m'a déjà fait remarquer que j'avais le type slave, et j'ai toujours répondu que mes grands-parents maternels étaient issus d'une colonie juive originaire des pays de l'Est. Lyuba était-elle juive ou orthodoxe? Les larmes de Soutkovski étaient-elles réelles ou rêvées? S'est-il introduit dans ma chambre au monge? Je ne le saurais sans doute jamais. Et même si Paul découvrait que son téléphone avait borné à Guignon cette nuit-là, je ne veux pas le savoir. Je l'ai prévenu, je ne veux plus rien savoir. Je vais lancer des recherches sur Lyuba pour trouver plus d'informations sur ses origines et éventuellement d'autres photos. Mais je ne veux plus rien apprendre sur son fils. J'ai trop peur de lui. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de Blanche que dans l'effroi qu'il provoque en moi. Est-ce parce que son sang coule dans mes veines, que je porte une part de son mal en moi, son mal et sa douleur? Il me reste à découvrir la dernière cassette qui était dans le cercueil de Blanche. Qui parle? Blanche? Colette? Maman? Les trois? Je l'ai entre les mains. Une fois que je l'aurai écoutée, je la rangerai avec les autres. Et je ferai en sorte qu'elle soit conservée le plus longtemps possible. Elles contiennent notre mémoire, notre histoire. Quand j'ai entendu la voix de papa qui s'adressait à Blanche, je me suis dit qu'il est extraordinaire de retenir les voix, plus encore que les images. Une image s'impose, une voix s'éternise et réinvente un visage. Il paraît qu'on a la même voix à tous les âges. Est-ce cette première cassette qui a donné envie à Colette de poursuivre? Sans doute. Colette a dû la découvrir quand elle a retrouvé mon magnétophone, et je l'imagine la remettre à Blanche en 2000. C'est de la part de Jean, il l'a laissée pour toi. Je suis l'enfant de plusieurs histoires, des histoires puissantes. Je me dois de continuer à en raconter. Je jette un coup d'œil à mon courrier posé sur le bureau et suis attiré par un colis. Mon adresse est manuscrite. Il a été posté à Paris 18e. Je ne connais pas cette écriture. Je l'ouvre et découvre à l'intérieur la boîte rose contenant toutes mes photos.
Ma chère Agnès, moi je ne voulais pas. Parce que je pense que je n'existe pas. Que je n'ai pas existé. Que tout ça c'est du dérangement. Nous sommes le 30 mars 2007. Colette est à côté de moi. Elle a toujours été près de moi. Elle, heureusement qu'elle existe. Nous venons d'écouter les variations Goldberg interprétées par votre père. Et toute cette beauté m'a fait tourner la tête. Alors, Colette me demande de vous parler parce que... Je lui parle tout le temps de vous, mais je ne vous parle jamais à vous. Parle-lui de toi, elle répète. Dis-lui, elle répète. Je n'aurais jamais osé sans elle. Vous êtes une grande dame. Je me sens comme une petite souris qui a accouché d'une montagne. J'ai passé une seule nuit avec votre père. J'ai pensé ne rien dire. Rester près du magnétophone sans prononcer un mot pour que vous entendiez mon silence. Le vide de vous. De nous. Tout ce vide qui m'a habité depuis le jour où je vous ai déposé dans les bras d'Anna, sur le siège arrière de la voiture. Le bruit du moteur. Jean a démarré après m'avoir embrassée. j'ai entendu la voiture s'éloigner. Si j'avais dû vous parler un jour, j'aurais aimé le faire en vrai. Mais il est toujours vivant. Il se cache, il me cherche, et s'il me trouve, j'ai peur qu'il vous trouve. Le silence n'est jamais salvateur, il peut même tuer. Alors voilà. J'ai compris que vous étiez en moi longtemps après vous avoir conçu. Enceinte de 5 mois, j'ai senti comme des bulles dans mon ventre, vos premiers mouvements, votre présence. Je n'avais pas pris un gramme, ni vu mes règles, mais comme je les voyais rarement, je n'avais pas compris. De vous savoir en moi, de vous comprendre en moi, j'ai ressenti à la fois un immense bonheur, une joie universelle et une angoisse absolue. Je n'ai jamais pensé vous garder, Agnès. J'ai tout de suite su qu'il faudrait qu'on se sépare, que je vous sorte de ce cercle infernal. S'il l'apprenait, il me tuerait et vous seriez menacée ou il vous retiendrait. Il ferait de vous sa chose, comme avec moi, une âme volée, fragilisée, isolée. Il y a vraiment des êtres qui terrorisent, et plus qu'on ne le croit. Il y a vraiment des familles martyrs qui vivent sous la coupe d'un tyran, et plus qu'on ne le croit. Ce n'est pas Jean que je suis allée voir. C'est votre maman, Anna. C'était une affaire de femme. Je l'ai attendue à la sortie d'un concert rue des Tables Claudiennes à Lyon. J'avais trouvé sa photo et celle d'autres musiciens sur un prospectus. Jean m'avait parlé d'elle au cours de notre soirée. Je lui avais posé beaucoup de questions. Il m'avait conté leur rencontre. Le mot dans le piano. Et elle, violoniste. L'histoire de sa famille déportée, son adoption. J'ai pensé, mon enfant sera celui d'un pianiste et d'une violoniste, et non celui de quelqu'un comme moi. Je n'ai jamais pu imaginer qu'il puisse poser les yeux sur vous. Si Anna avait refusé, j'aurais accouché sous X et je me serais donné la mort après. J'ai réussi à vivre parce qu'un soir, j'ai rencontré Anna Ruben. J'ai attiré son regard à cause de la ressemblance. Elle est venue vers moi et m'a posé la question, incrédule, « Vous êtes... Colette a une sœur? Jean a une autre sœur ?» J'ai baissé les yeux. J'ignorais si Jean lui avait parlé de moi, de notre nuit. Je n'ai jamais eu autant honte de ma vie. Je ne me rappelle pas parfaitement les mots que j'ai employés, mais je sais que je lui ai tout dit dans la rue, sur le trottoir. J'avais peu de temps. On m'attendait au cabaret. J'avais demandé une sortie exceptionnelle. Ils ont cru que j'avais un rendez-vous amoureux. C'était vrai, mais pas celui qu'ils imaginaient. Et Anna me regardait avec effarement, son étui à violon dans la main. Comme elle était jolie. J'ai compris à son regard que Jean lui avait parlé de moi. J'ai parlé à votre maman le 21 juin 1972, le jour de l'été, le jour où Jean est mort, 15 ans après. Elle aurait pu me demander de partir sur le champ, ne pas me croire. Mais Anna m'a écoutée, ne m'a pas jugée. Je pense qu'elle a compris ma terreur et l'urgence de vous sauver la vie. Elle a pris ma main. Oui, elle a pris ma main et elle a juré de m'aider. Elle était si grande et si noble. Je me suis sentie misérable, minable et tristement sale. Mais je n'étais plus seule. Elle aimait tellement votre père qu'elle prenait tout de lui, même l'enfant qu'il avait fait avec une autre. J'avais passé la nuit du 19 janvier avec Jean Septembre. Il suffisait d'ajouter 9 mois pour imaginer la date approximative de votre arrivée au monde. Anna m'a demandé comment me joindre. Ce n'était pas possible. J'ai pris le numéro de téléphone qu'elle a griffonné sur un papier. Je lui ai dit que je l'appellerais à partir du 19 octobre. Anna m'a demandé ce que je ferais si le bébé se présentait avant. Mais j'étais convaincue que l'enfant resterait avec moi jusqu'au terme. J'avais prévenu le cabaret. Je vais m'absenter 4 jours, mais si vous en parlez, je ne pourrai plus jamais revenir travailler ici. J'ai pris des risques. Sam, mon patron, rapportait tous mes faits et gestes. Mais sa femme, Ariel, m'a couverte. J'ai pris des risques, mais je n'avais pas le choix. Je réalise aujourd'hui que votre venue au monde dans le plus grand secret tient du miracle. J'ai eu 4 mois pour vous préparer à notre séparation sans jamais l'évoquer. Je me suis dit qu'on avait 4 mois à vivre ensemble. La journée, je vous cachais sous des bandages, et la nuit, je vous caressais. Je vous murmurais des poèmes et des chansons pour qu'ils ne m'entendent pas de l'autre côté du mur. Le jeudi 19 octobre 1972, il m'a dit qu'il partait 4 jours, comme d'habitude. Il a jeté quelques affaires dans un sac et a embarqué ma chienne Vera. Au début, je me suis méfiée. Il partait toujours à cette date, mais j'ai quand même pensé que quelqu'un du cabaret avait pu me dénoncer. Je me suis assise et j'ai attendu ses pas dans l'escalier pendant 24 heures. Rien. Je n'ai pas dormi. Il n'est pas rentré. Le 20 octobre, j'ai téléphoné à Anna. Nous nous sommes retrouvés rue des Tables Claudiennes comme la première fois. Entre mon domicile et le lieu du rendez-vous, je me suis retournée 1000 fois pour m'assurer qu'il n'était pas derrière moi. Jean et Anna m'attendaient dans une voiture. Je pensais qu'ils m'emmèneraient chez un médecin à Lyon, mais ils sont sortis de la ville. Jean m'a dit « On va chez ma sœur, elle saura quoi faire. » Sa sœur ? Celle qui m'apportait à manger à l'école en me faisant croire qu'elle avait trop de nourriture dans son sac ? Je me suis endormie à l'arrière de la voiture. C'est la voix de Colette qui m'a réveillée. Colette qui ne nous attendait pas. Quand elle m'a vue, elle m'a reconnue. « Blanche, c'est toi ?» Colette n'avait absolument pas changé, moi non plus, je crois. Chez elle, il y avait une odeur de cire. J'ai libéré mon corps en retirant la gaine qui m'oppressait. À cet instant, je t'ai permis d'arriver. Nous avons dîné tous les 4 en silence. Colette n'a jamais été femme à poser des questions. Je n'ai pas osé regarder Jean de toute la soirée. J'avais honte de la situation. Je me sentais terriblement coupable par rapport à Anna. J'étais amoureuse de lui. Comment dire ? Affreusement et éperdument amoureuse. Douloureusement et éperdument. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Et je ne l'ai jamais revu après ce mois d'octobre 1972, à part à la télévision, et je l'aime encore. Comme Colette aime Aimé, et Aimé aime Colette. Ça se voit, ces choses-là, parce qu'elles sont rares. Il y a 7 ans, lorsque j'ai retrouvé Colette et que je me suis installée dans votre chambre, Agnès, elle m'a donné la cassette enregistrée par Jean en 1985, à Noël. La bande est usée tellement je l'ai écoutée. J'ignore si vous l'aurez déjà entendue quand vous m'écouterez, mais c'est comme si Jean avait recousu un morceau de mon cœur 35 ans après notre rencontre. Le soir du 20 octobre, nous sommes allés nous coucher très tôt. Colette m'a demandé si elle pouvait toucher mon ventre. Je vais être tante. L'enfant t'appellera Tata. Je préférais qu'il m'appelle Colette. Nous nous sommes pris la main pour nous endormir. J'étais si fatiguée. Avant de fermer les yeux, je lui ai raconté la nuit que j'avais passée avec son frère en 4 mots. Piano, rencontre, ébloui, amour. On dit que le diable se cache dans les détails. Je peux vous dire que la seule nuit que j'ai passée avec votre père, c'est Dieu qui ne se cachait plus. J'ai perdu les os en rêvant que c'était la main de Jean qui était dans la mienne et non celle de Colette. Comme votre père, je souhaitais que Colette vous mette au monde. Je savais qu'elle saurait. Aussi fou que ça puisse paraître, je n'ai pas eu mal en accouchant. J'avais trop hâte de vous expulser vers la liberté, vers une vie que je ne connaîtrais pas. J'interrompais la malédiction de mes aînés. Mon géniteur ne m'a jamais parlé de sa mère. Il vivait avec sa photo. Personne n'avait le droit de regarder à l'intérieur de son portefeuille et personne ne lui désobéissait. Sauf moi. J'ai encore le visage de ma grand-mère gravé sur la rétine. C'est presque une maladie. Quand je ferme les yeux, je la vois comme je vois le monde autour de moi. Vous êtes née en 3 heures à peine, loin de la violence, entourée d'amour. Colette a su faire les bons gestes. Anna ne nous a pas quittés. C'est Colette que je regardais quand j'ai entendu votre premier cri. Jean est resté en retrait. Quand il vous a vu la première fois, on aurait dit que c'était lui, l'enfant. Et bien sûr, c'est Anna qui l'a embrassé, pas moi. Le 23 octobre, Jean est revenu chez Colette avec votre acte de naissance. Agnès Septembre, fille de Jean et Anna. Vous étiez sauvés. Nous aurions pu rester ainsi pendant des jours, mais il fallait que je rentre avant le soir. Jean et Anna m'ont ramené à Lyon. Je leur ai demandé de me déposer loin de l'appartement, au cas où ils seraient déjà là. Ils m'ont embrassée. Anna pleurait tellement qu'elle a mouillé mon visage. Jean était silencieux, hagard. J'ai déposé un dernier baiser sur votre joue. Vous dormiez. Tant mieux, vous ne m'avez pas vu m'éloigner. J'ai marché sans penser, monté les escaliers sans penser, ouvert la porte. Il n'était pas rentré. Je me suis changée. Si mes calculs étaient bons, il arriverait le soir. Le lundi, le cabaret était fermé. J'ai épluché des pommes de terre. Vers 19h, j'ai entendu Vera cavaler dans l'escalier. Il a ouvert la porte. Il ne m'a pas salué. La chienne m'a fait la fête. Et nous avons dîné en silence. J'ai débarrassé, fait la vaisselle. J'ai descendu Vera une quinzaine de minutes. Dehors, il s'était mis à faire froid tout à coup. Mon corps n'était que douleur. Ma tête était vide. Je me suis assise sur un banc. Vera a posé son museau sur ma cuisse en me regardant avec une tristesse infinie, comme si elle questionnait ma peine. Je n'ai rien su lui répondre. Il fallait que je fasse comme si rien n'était arrivé. S'il avait appris que je venais d'accoucher, il n'aurait eu de cesse de vous traquer, comme il traquait ma mère, obsessionnellement. La vie a repris son cours. Une presque vie. Une vie sous surveillance. Avec quelques éclaircies au cabaret. Seules Colette, Jean, Anna et moi savons que vous êtes nés dans la nuit du 21 octobre et non pas celle du 22. Au début, je téléphonais à Anna, mais c'était trop douloureux pour nous deux. Je me suis effacée, mais avant, j'ai donné une poste restante à Anna. Elle m'a envoyé des photos jusqu'à vos 20 ans. La dernière fois que je lui ai parlé, c'est en 1987. Après la mort de Jean. J'avais besoin de lui dire à quel point je pensais à vous deux. Le 23 décembre 1981, je vous ai vu rue des Chartreux. J'étais avec lui. On sortait d'un magasin. Il m'avait rhabillée comme une enfant. J'avais 35 ans. Sur le trottoir d'en face, j'ai reconnu Anna et, au bout de sa main, une jolie petite fille. Vous portiez un manteau rouge et des barrettes colorées dans les cheveux. Vous sautillez. J'ai embrassé votre joie de loin. Anna ne m'a pas vue. Je vous ai suivi du regard. Il m'a demandé ce que je foutais. J'ai répondu « Rien, je regarde la petite fille là-bas. » Il a grommelé quelque chose. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que vous disparaissiez. Après, je vous ai vue à la télévision. Comme vous êtes intelligente et belle. Vous êtes une artiste et vos films sont magnifiques. Je les ai vus en me racontant que vous les aviez faits pour moi. Colette m'a montré des photos de votre fille, Anna. Elle ressemble à Jean. Elle est pianiste. Vous avez réussi votre vie et la sienne, Agnès. Merci pour ça. Je n'ai pas envie d'arrêter de parler. C'est pour cette raison que je ne voulais pas commencer. Mais vous n'avez jamais eu besoin de moi. Vos parents sont des parents. Moi, je suis le vent.
Fin de l'enregistrement.